lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès évidemment, l'âge de 7 évidemment. Ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Yes, para que los quiero si tengo alas para volar. Pourquoi voudrais-je des pieds si j'ai des ailes pour voler? Frida Kahlo.
Un à la reine à l'autre à moi. Un à la reine à l'autre à moi. Valentum al castellano.
Les ailes froissées. Préface. Il y a quelques mois, Patricia m'écrit après avoir lu mon second souffle et vu le film Intouchable. Tous les deux on aime la vie, tous les deux on aime voler, tous les deux on est tombé. Multiples fractures aux membres inférieurs, tibia, péroné, malléole, calcanéum, cheville, etc. Mais peu importe, car je ne sentais plus mes jambes. On m'a dit... « Tu es grande maintenant, tu peux comprendre, tu es paraplégique. » J'avais 17 ans, et je savais même pas ce que ça voulait dire être paraplégique, alors même pas peur. J'ajouterai que nous sommes passés tous les deux par le centre de Carpap, sur la côte bretonne, près de l'Orient, et tous les deux nous avons voulu mettre des mots à nos mots, pour tourner la page. Patricia Le Grand Péor avait publié, avec Catel Chantreau, son histoire en breton et prévoyait de le traduire en français. Elle m'enverra les chapitres un par un et j'ai découvert avec délectation son histoire par petits bouts. Rien à dire, c'est du pur jus, superbe, vivant. On ne lève pas le nez, on veut tout savoir, on rigole. Je me réjouis de lire la suite, m'impatiente et me désole quand j'arrive au point final. J'en voudrais encore. C'est au top par la vivacité, la justesse d'observation, l'émotion, l'humour, la douleur, authentique. Ces pages trop brèves sont d'une cohérence et d'une intensité inouïe. En paraphrasant ce que Patricia dit sur Frida Kahlo, cette grande artiste mexicaine crucifiée par le handicap, qu'elle admire tant, elle a réussi à mettre de la poésie et des couleurs sur ses blessures, à convertir sa souffrance et sa colère en force de création. Elle regarde les gens droit dans les yeux, sans crainte, profondément sincère, pour leur conter sa vérité, son intimité, ses sentiments. Depuis, j'ai rencontré Patricia. Son regard intense n'a rien à envier à celui de Frida. À force de persévérance, elle s'est remise debout et dans son élan, elle emporte la cohorte des fragiles. Après nos échanges, je la vois remonter une allée bordée d'hortensias, de rosiers, d'hibiscus, considérant d'une inclinaison de la tête la beauté de cette nature, regardant avec bienveillance tant de fragilité exprimée en couleurs. Sur son visage, il y avait un sourire réconcilié. Une leçon de vie pertinente et impertinente, à savourer sans modération, conscient qu'au-delà du témoignage, c'est un bijou d'écriture que Patricia et Catel nous proposent. Philippe Pozzo di Borgo, Essaouira, automne 2013.
Un à la reine à l'autre à moi. Un à la reine à l'autre à moi. Valentum al castellano. Din din dan dan em go.
Un jour, j'irai sur la lune, avait lancé ma copine Karine.
Moi, je sauterai en parachute,
avais-je répondu. J'avais lâché ça comme ça, sur le coup, pour balancer un rêve à la hauteur de celui de Karine. Un parachute ? Je n'en avais jamais vu, même pas à la télé. L'idée de voler m'avait peut-être traversé l'esprit en songe la nuit, mais rien de plus. Sauter en parachute, en tout cas, c'était un rêve qui avait de la gueule. J'ai rencontré Karine au centre aéré de Ploumoguer quand j'étais enfant. J'avais 11 ans la première fois que je l'ai vue. Elle était montée dans le car entre Bellevue et Ploumoguer, s'était assise à côté de moi, et dès cet instant, nous avions commencé à copiner. Karine avait 1 an de plus que moi. Ses cheveux bruns coupés au carré reposaient sur ses épaules. Sur son front, une frange nette, comme c'était la mode dans les années 90. On s'entendait comme larron en foire, deux gamines délurées, têtes brûlées, on n'avait pas notre pareil pour faire des bêtises sans se faire choper. Karine avait une grande sœur et un petit frère. Et moi, j'avais une grande sœur, que j'ai toujours. Karine habitait Gouesnou, au nord de Brest. J'étais de Bellevue, un quartier de Brest. 15 kilomètres nous séparaient. Tout un voyage lorsqu'on a 11 ans. On se retrouvait chaque été au centre aéré de Ploumoguer. L'occasion pour moi de troquer le bitume gris de Bellevue pour le sable doré de la côte. Un grand bol d'air. Les virées quasi quotidiennes à la mer, les opérations bronzettes sur le sable fin, les courses dans les dunes, les baignades dans l'eau glacée avec nos sandales en plastique, comme un pied de nez au vif qui essayait de nous piquer. Il y en avait toujours un qui se faisait attraper. S'en suivait alors une séance d'aspi-venin, ou pire, une douche d'urine, lorsque les monos avaient oublié la précieuse pompe dans leur bureau, les boules, et la honte aussi. Tous les jours au goûter, on nous donnait du pain compote. Il fallait se méfier des abeilles attirées par l'odeur du sucre. Pourtant, on prenait le temps de déguster nos tartines, Karine et moi, assises l'une à côté de l'autre, toujours. Combien de secrets échangés en se léchant les babines. Les misères qu'on faisait à nos frangines, par exemple. Moi, j'avais subtilisé sa collection de vieilles pièces de monnaie pour aller la revendre à la Banque de France. Elle avait piqué une colère monumentale lorsqu'elle avait découvert la boîte vide. Karine, elle, lisait en douce le journal intime de sa sœur et me faisait le récit de ses dernières amourettes. Après une semaine de vacances ensemble, c'était décidé, on sera meilleurs amis. Et ce qui fut dit fut fait. Que de découvertes ensemble ! Embrasser un garçon avec la langue, par exemple ? Pas le même gars, mais le même jour et au même moment. C'était au centre aéré, là encore, chacun son amoureux. Raymond, le sien, et Maxime, mien. Karine l'avait choisi pour moi. On avait organisé un concours de roulage de pelle derrière la cantine et j'étais restée plus de 2 minutes à tourner ma langue dans la bouche de Maxime. Vous imaginez ? 2 minutes sans avaler ma salive ? Inutile de vous décrire le crachat que j'avais fait après ça. Discrètement, bien sûr, c'était pas très élégant. Le centre aéré de Ploumoguer n'ouvrait que l'été. Le reste de l'année, je correspondais avec Karine. Une lettre par mois, au minimum. Une lettre par semaine, dans les périodes les plus prolifiques. Les ragots du collège, nos potes, nos amoureux, nos chanteurs préférés, et des dessins à foison. Karine nous représentait perchés sur la lune, et moi, je dessinais 2 pâquerettes suspendues à leur parachute, explorant l'immensité du ciel. À 13 ans, j'étais capable de prendre le bus toute seule. Avec une correspondance même. Le bus numéro 5 de Bellevue, au centre de Brest, et le bibus 22 jusqu'à Gouesnou. Nos retrouvailles étaient l'occasion de discussions et de fous rires sans fin. L'occasion aussi de goûter sans retenue aux joies de la jeunesse. Les clopes, la chourre, la drague. Et pas de mono pour nous surveiller. Freedom! 2 ans après notre rencontre, on parlait toujours de nos rêves. Karine voulait marcher sur la lune. Et moi, je voulais voir ce qui se passait au-dessus des nuages.
Les ailes froissées.
Hélas, j'étais trop jeune. Il fallait avoir 16 ans au moins pour sauter. Et de toute façon, c'était trop cher. J'étais allée à la pêche aux infos dans un forum sur le sport au parc des expositions de Pinfeld. J'avais alors découvert le coût d'un saut et ça m'avait découragée un moment. 150 €, tel était le prix de mon rêve. Heureusement, j'étais pencalette. J'avais la tête dure et ce n'était pas ça qui m'empêcherait d'aller jusqu'au bout. Je l'avais promis à Karine, il fallait que je le fasse. C'était comme gravé dans mon cœur. Plus qu'un rêve, c'était devenu mon but dans la vie. Sauter en parachute. Mission 1. Patienter jusqu'à mes 16 ans. Mission 2. Amasser 150 €. Mission 3. Convaincre mes parents de signer l'autorisation. Mission 1. Rien à faire, juste attendre 3 ans. 1095 jours. Mission 2. Gagner de l'argent. C'était pas aussi compliqué que le disaient les grands. Du sang léonard coulait dans mes veines et ça m'a sans doute facilité la tâche. Économiser était devenu ma spécialité, presque une seconde nature, et mes bas de laine gonflaient à vue d'œil. Cette année-là, j'avais une sacrée acolyte à mes côtés, Aurore. Elle habitait à Bellevue aussi, près du centre commercial des Bahamas. On s'était rencontrés au collège, en classe de 5e. Aurore avait un caractère bien trempé, des cheveux courts rouges au burn et elle portait des lunettes rouges au vert rectangulaire. Elle était assez maigre, comme moi, mais bien plus forte pour la bagarre. Quand on était avec nos collègues, on était deux branleuses, avec nos jogging Adidas, nos Nike ou nos Fila, et une bonne couche de maquillage sur le visage, contour des lèvres et eyeliner de rigueur. La panoplie complète. On passait des heures et des heures à draguer au roller musique ou à tailler la discute en bas des immeubles, sur les mecs, les couples qui se faisaient et se défaisaient, la clope, l'alcool, l'amour. Mais dès qu'on se retrouvait seules toutes les deux, on rattrapait le train de l'enfance et le monde de l'imaginaire. On disait qu'on était des enfultes, mi-enfants, mi-adultes. On enfilait nos blouses blanches de scientifiques et on grimpait dans les arbres pour étudier les dizaines de petites bêtes glanées sur notre route. J'entends encore ma mère hurler quand je rapportais à l'appart des vers de terre confinés dans des boîtes de coton-tige. Je les planquais dans le loc du vide ordure et parfois c'est là qu'ils terminaient leur vie, dans l'oubli total. On adorait se déguiser. Certains jours, on enfilait un imper à la Colombo, chaussures à talons, lunettes noires, et on suivait des gens dans la rue. Notre activité d'espionnage stimulait notre imagination et nous inventions des quantités d'histoires sur les pauvres bougres qui faisaient l'objet de nos enquêtes. Je me souviens d'un vieux monsieur qu'on suivait régulièrement. Nous étions persuadés qu'il était pédophile parce qu'il allait chercher un petit garçon à l'école tous les soirs. Quelques années plus tard, on a compris que le petit garçon en question était son petit-fils. Honte sur nous. Aurore et moi formions une belle équipe. Nous étions rusés comme le renard. On n'était pas nés dans l'or, mais on savait où il se cachait. On racontait des cracks aux gens pour faciliter la vente de nos services. Si on leur proposait de laver leur voiture ou de faire leurs courses, ce n'était pas par appât du gain, mais pour financer le voyage de fin d'année du collège ou la fête du quartier. « Elle aura lieu quand, cette fête ?» nous demandait-on parfois. Sans ces fables, nous n'aurions pu prétendre au moindre sou. À l'approche de la nouvelle année, on nous envoyait vendre le calendrier du collège. 5 € l'exemplaire. Transformer le 5 en 8 était un jeu d'enfant. Et chaque calendrier vendu nous rapportait 3 €. Si c'est trop cher pour vous, vous pouvez participer en donnant une pièce pour la caisse électorale du collège, proposait-on à ceux qui rechignaient à l'achat. Et il glissait 1 ou 2 € dans la caisse électorale confectionnée par nos soins, et qui tirait son nom du jeu de la bonne paye. Cela allait directement dans notre poche, sans passer par la case « collège ». Une autre fois, on avait volé les tickets de tombola du club de foot du frère d'Aurore, et on avait tout vendu. Jackpot ! On était également sponsorisé à son insu par la supérette du quartier. Victoire en abondance, sous le manteau, il fallait bien prendre des forces pour partir en mission. Mamie Météo nous avait bien dépanné elle aussi. Mamie Météo était une vieille dame du quartier, un peu timbrée. Elle avait gagné son surnom à force de déverser des seaux d'eau sur la tête des jeunes qui squattaient en bas de son immeuble. Selon la rumeur, son fils avait fait fortune en Italie et lui envoyait de l'argent à tire-larigot. Elle cachait ses billets à l'ancienne, sous son matelas et dans ses chaussettes. Tout le monde le savait dans le quartier. Deux fois, on était allés la voir, Aurore, un copain et moi. Deux fois, elle nous avait ouvert sa porte et invité à boire un verre. Elle était tellement toquée qu'elle nous prenait pour des adultes et nous servait de l'alcool fort. Pendant qu'Aurore et le copain lui faisaient la conversation et se brûlaient le gosier dans le salon, je me glissais dans sa chambre en lui soustrayant quelques billets. Un jeu d'enfulte. On était content lorsqu'on se partageait le butin en sortant de chez elle, mais on avait un peu honte quand même. On était conscient que ce qu'on faisait n'était pas joli joli. Mais nos remords fondaient bien vite au premier seau d'eau vidé sur nos têtes, innocentes, par la fenêtre de Mamie Météo. « Ça va pas, non ?» Ne croyez pas qu'on était sans pitié quand même, ni même obnubilés par l'argent. On savait aussi être généreuses et mener des projets non lucratifs. En quatrième, par exemple, Aurore et moi en avions eu marre de voir les gamins du quartier traîner dans les halls d'immeubles comme nous. On s'était alors improvisé animatrice et prof de danse, et on avait monté une comédie musicale avec les enfants du quartier. On était allé jusqu'à la mairie de Bellevue rencontrer le maire pour qu'il nous prête une salle de répétition. Le jour du rendez-vous, il pleuvait des trombes. Aurore, moi-même et ma chienne Capucine étions trempées jusqu'aux os. La nunuche de la mairie ne voulait pas nous laisser entrer avec le chien. « Vous allez crotter la moquette !» Mais peine qu'à l'aide, comme toujours, on n'avait pas reculé. La nunuche avait fini par nous ouvrir les portes du temple municipal. Le maire nous avait reçus toutes les trois et proposé une salle à la maison pour tous de Bellevue, tous les mercredis. Après plusieurs mois de répétition, on avait présenté le spectacle qui avait rencontré un franc succès. Les parents étaient tellement émus qu'ils nous avaient même donné des pourboires. Chaque gain était partagé équitablement et dépensé pour satisfaire les besoins élémentaires d'une ado de 14 ans. Le surplus était consigné sur mon carnet de comptes et la somme déposée dans une boîte en métal, jusqu'au jour où j'ai atteint mon objectif. Il y avait 150 euros dans ma cagnotte. Mission 3. Convaincre mes parents de signer l'autorisation. Convaincre mon père n'avait pas constitué une grosse difficulté. Il se préoccupait peu de ce que l'on pouvait faire, d'autres chats à fouetter. Son sport, son tiercé, sa vie, quoi. Faire du parachute. Lui comme moi, on ne voyait pas le problème. Signé. Du côté de ma mère, c'était une autre affaire. Et la signature de mon père ne suffisait pas dans cette maison. C'est ma mère qui prenait les décisions, nous concernant. Du parachute ? D'où te vient cette idée tordue ? C'est bien trop dangereux, c'est encore ton père qui t'a mis ça dans la tête. Et ça coûte combien ton truc ? Comment tu vas payer ça toute seule ? Ma mère était très inquiète, mais j'étais habituée à peindre la vérité pour la rassurer. J'avais fait des efforts au collège pour éviter quelques avertissements dans mon carnet de correspondance. J'avais obtenu de bonnes notes au brevet. Je ne demandais jamais d'argent à ma mère, ni pour sortir, ni pour réaliser mon rêve. J'avais expliqué, imploré, multiplié les promesses. Et j'abandonne l'idée du tatouage, maman. Promis, maman. J'avais pourtant remis cette question sur le tapis un an après et obtenu son accord. J'avais juré mes grands dieux. Je ne sauterai qu'une fois, une seule fois dans ma vie, s'il te plaît. Face à ma détermination, au bout de quelques mois, ma mère avait fini par capituler et j'avais obtenu la précieuse signature. Je n'attendais plus qu'une seule chose maintenant, souffler mes 16 bougies.
Les ailes froissées.
Je suis née le 18 mars 1984. À 16 ans, 1 mois et 12 jours, je montais dans un avion pour la première fois de ma vie, prête à réaliser mon rêve. Il fallait aller jusqu'à Vannes, à l'aérodrome de Mecon, car c'était le seul centre de parachutisme sportif de Bretagne. J'avais quitté Brest à 7h du matin, avec ma mère, mon père et sa voiture. Pas un mot entre nous. Chacun replié dans sa coquille. Mon père roulait à une vitesse d'escargot, comme à son habitude. Le visage satisfait, il savourait la musique classique qui sortait de l'autoradio et qui ne plaisait qu'à lui. À ses côtés, ma mère avait l'air paniquée. Mais pourquoi j'ai signé cette autorisation? Pourquoi? Assis sur la banquette arrière, j'avais le cœur qui battait la chamade. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Quimper, Quimperlé, Lorient, les panneaux défilaient et l'excitation montait. Le stress aussi. Des papillons batifolaient dans mon ventre. Je n'arrivais pas à croire que j'allais réaliser mon rêve. Normalement, les rêves, c'est la nuit qu'on les fait, non? Van, Mecon. Ça y est, on y était. Un vaste terrain s'étendait à côté d'un grand hangar sur lequel était inscrit « Centre de parachutisme sportif de Van Mecon ». Planté devant, quelques personnes regardaient le ciel azuré à travers des jumelles. À l'intérieur, d'autres, allongés sur des petites planches à roulettes et s'agrippant les uns aux autres, s'entraînaient à former des figures qui ressemblaient à des étoiles ou à des toiles d'araignée. D'autres encore pliaient d'immenses voiles dans de minuscules sacs colorés. Certains portaient de drôles de costumes avec des boudins le long des bras et des jambes, un peu comme ceux des hommes de l'espace des films de science-fiction. J'avais choisi la formule « saut en automatique ». Le parachute est relié à une sangle, elle-même reliée au banc de l'avion. Lorsque l'on saute, la sangle se tend et le sac s'ouvre automatiquement pour laisser la voile sortir. J'aurais pu choisir le saut en tandem, le moniteur plaqué sur mon dos, mais je préférais voler seul, même si les moniteurs étaient plutôt mignons. Tu vas suivre une formation ce matin pour pouvoir sauter cet après-midi. Une formation? J'entendais déjà mon père râler. Il n'avait pas envie d'y passer la journée. Des 5 personnes qui suivaient la formation, j'étais la plus jeune et la seule fille. On avait tous hâte de grimper dans l'avion. Hervé, le formateur, était un bon pédagogue. Il portait une combinaison intégrale bleu et orange pétant, enfilée à moitié comme un ouvrier en pause. Histoire du parachutisme. Terme technique. Déroulement d'un saut. Sa voix rieuse et claire nous ouvrait les portes d'un univers. Fini les voiles rondes comme au temps du débarquement. Les voiles modernes avaient la forme d'une aile composée de 9 poches qui se gonflaient d'air, les caissons. On avait aussi appris à plier notre voile dans le sac, car chaque parachutiste est censé le faire lui-même. Heureusement, cette manipulation délicate est supervisée par des plieurs professionnels. Ouf ! Il y a 2 voiles dans chaque sac, la principale et celle de secours, si jamais la première ne s'ouvre pas correctement. Dans ce cas précis, le cas de « libération », comme ils disent, il faut larguer la voile principale avant d'ouvrir celle de secours, sinon tout s'en mêle. 2 poignées attachées au niveau de la poitrine et reliées au sac permettent cette double opération. Une poignée de mousse pour larguer la voile principale et une poignée de fer pour ouvrir celle de secours. Une devise répétée à l'envi résume le tout. Poignée de mousse, poignée de fer, si tu te trompes, tu vas en enfer. Un bon moyen mnémotechnique, certes, même si je ne me sentais guère concernée. Toutes ces informations n'étaient pas dénuées d'intérêt, mais je peinais à rester attentive. J'étais excitée comme une puce. J'avais tout de même bien retenu le plus important, la banane. C'est la forme qu'il faut imiter lorsqu'on se jette de l'avion. Cambrer le dos et bien lever la tête, comme une banane face au vent. Lorsqu'on maîtrise bien la banane, on apprend à utiliser la poignée témoin, une fausse poignée que l'on doit attraper sans perdre l'équilibre ni se retrouver sur le dos, pour simuler le geste qui actionne l'ouverture de la voile. Les débutants sautent avec une radio qui permet aux moniteurs de les aider à s'orienter. Pour être autorisé à abandonner la sangle automatique et sauter librement de plus haut, il faut atteindre 3 objectifs. Faire une belle banane, attraper la poignée témoin et s'orienter sans radio. La formation finissait par des vidéos où l'on voyait des cas particuliers, des cas d'accidents potentiels et les bonnes façons de réagir. Je frissonnais de peur. Pourtant, ce n'étaient pas ces images qui me donnaient la chair de poule, car je me sentais invincible. Qu'est-ce qui me remplissait d'effroi alors ? Aller jusqu'au bout de mon rêve, peut-être ? Quel serait mon nouveau but dans la vie ? Quel serait mon nouveau rêve ? Midi. Mes parents étaient allés manger à Vannes. Moi, j'avais rapidement avalé mon pique-nique dans la cuisine du paraclub. C'est comme ça qu'on appelait le centre.
Mangez pas trop,
nous avait conseillé Hervé.
C'est bon les gars, si vous êtes prêts, vous pouvez choisir un sac, mettre votre nom sur la fiche d'avionnage et vous diriger vers le prochain avion.
Quoi ? Qui ? Comment ? Déjà ? Le plus léger pour moi, s'il vous plaît. On m'en avait tendu un grand, bleu, vert et noir. D'un coup, tout le monde avait eu besoin d'aller aux toilettes pour le classique caca de la peur. Moi aussi. Beurre. L'odeur dans les toilettes m'avait coupé l'envie. Et de toute façon, il n'y avait plus le temps. L'avion attendait les parachutistes en herbe sur la piste. Il fallait aller vite car le moteur tournait et le kérosène coûtait cher. « Attendez-moi !» Je rentrais mon pull dans mon pantalon tout en courant. Les 15 kilos de mon parachute pesaient lourd sur mes épaules. L'avion était tout proche maintenant. Je sentais le souffle de l'hélice et l'odeur du kéro. Cette odeur me montait à la tête et faisait battre mon cœur de plus en plus fort. « I feel the need for speed » était écrit sur le pull d'un des paras. Pas d'hôtesse ni de marchepied pour nous accueillir, mais la courte échelle était tout aussi pratique et bien plus conviviale. On était 9 dans l'habitacle. 5 paras automatiques, dont moi-même, qui sauterions à 1200 mètres d'altitude. Et 4 paras plus expérimentés, dont Hervé, qui sauterait de 4000 mètres. Hervé avait changé de casquette. De formateur, il était devenu largueur, celui qui nous donnerait le signal juste avant qu'on se lance dans le vide. Aux manettes, le pilote avait des airs de vieux film américain. Blouson de cuir, grosses lunettes de soleil, la pipe au bec et le casque bien enfoncé sur sa casquette. Détendu et bienveillant. Il nous avait interpellés.
Alors, prêt à voler ?
Ouais ! On avait tous hurlé d'une seule voix en se tapant dans les mains comme une équipe soudée. Clac ! La porte s'était refermée, prêt pour le décollage. On roulait sur la piste, doucement d'abord et de plus en plus vite. Le pilote appuyait sur le champignon. On était scotchés contre la paroi métallique. Soudain, le nez de l'appareil s'était levé et l'instant d'après, le vacarme des roues s'était éteint pour laisser toute sa place au vrombissement du moteur. Ça faisait un bruit d'enfer, on s'entendait à peine. De toute façon, c'était pas le moment de discuter. Je volais. La terre s'éloignait rapidement. On traversa quelques nuages bas, égarés. Peut-être pourrais-je les toucher tout à l'heure. L'altimètre marquait déjà 1200 mètres et il était temps de larguer les premiers. Hervé ouvrit la porte. Le vent frais nous arrivait droit dans la face, comme une grosse gifle. Allez, fallait pas traîner, sous peine d'être largué à peine d'âche. Les avions, au contraire des hélicoptères, ne sont pas conçus pour faire du surplace. Hervé avait crié. Ok ! Le premier stagiaire lui avait répondu par un long cri en se jetant dans le vide. Le deuxième stagiaire l'avait suivi. Ah ! Puis le troisième. Et la porte s'était refermée. Le temps que le pilote se repositionne pour larguer la deuxième tournée. J'en étais. Le vent dans la figure, assise en porte-à-faux, une fesse sur le bord de l'avion et une fesse dans le vide. Un frisson le long de ma colonne. La banane, il fallait que j'y pense. Ok, cria Hervé. Ah ! J'aurais aimé vous raconter ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais j'avais fermé les yeux pendant la chute. Le temps que la sangle se tende, que mon sac s'ouvre et que la voile se déplie, et c'était déjà terminé. Je volais sous ma voile, seule, la tête dans les nuages. J'avais rouvert les yeux et admiré le golfe du Morbihan. C'était comme dans Thalassa ou dans les images des encyclopédies. La terre vue du ciel, lorsque l'on se demande comment ils ont pu prendre une photo de si loin. À présent, je voyais de mes propres yeux la terre, la mer, les îlots du golfe, les villes grises, les champs rectilignes, et tout cela dans le même cadre, en un seul point de vue. Le paraclub ressemblait à une construction de Playmobil. Et les voitures étaient comme des fourmis, allant et venant, suivant un tracé bien déterminé. Je suis sûre qu'en regardant bien, j'aurais pu apercevoir Brest. Certains disaient qu'on pouvait voir Nantes, alors pourquoi pas Brest ? Je me sentais puissante, dominante, libre. J'étais fière. Tranquille, jeune fille, va pas de ce côté-là, sinon tu vas être vachée à Dreuze et on viendra pas te chercher. C'est bon, tu vois le centre ? Disait ma radio. Waouh ! Que j'avais crié toute contente. Le centre ! Ah oui, le centre ! J'avais oublié qu'il me faudrait atterrir. Je devais rester concentrée pour bien viser la piste d'atterrissage. Un coup de commande à gauche, un coup à droite. Dur d'évaluer l'altitude à cause de l'herbe haute. Heureusement que j'étais équipée d'un altimètre. 15 mètres, 10, 5, 3, 2, 1. Et me voilà posée comme une fleur sur le plancher des vaches. Ma mère m'avait rejoint alors que je ramassais ma voile. Énervée et rassurée, elle avait balancé. Allez, t'as fait ce que tu voulais, on rentre à la maison. Pour ma part, je ne pensais qu'à une chose. Sauter de nouveau.
J'avais fait ma rentrée en BEP hôtellerie-restauration. C'était ma seconde. J'adorais faire mousser des bières et servir des clients. Gagner de l'argent, ce n'était pas un problème. Les bars et les restaurants cherchaient toujours du monde. Négocier une nouvelle signature avec ma mère ? Cela nécessiterait quelques arguments supplémentaires et quelques preuves d'amour, mais c'était possible. Travailler, économiser et voler. Ainsi était rythmé mon quotidien. J'avais découvert le monde des parachutistes avec étonnement et avec joie, jusqu'à y être totalement absorbée. L'ambiance du centre de Mecon était exceptionnelle et unique. J'y avais décoté un amoureux, Benjamin, un gars de Nantes. Une grande gueule dans un corps robuste, un peu foufou. Il débutait le parachutisme comme moi. Un vieux camping bordait le paraclub et les Nantais y avaient un emplacement réservé sur lequel étaient posées quelques vieilles caravanes délabrées mais pratiques pour fricoter. Quand Benjamin n'était pas là, je plantais ma tente entre deux arbres où louait l'une des pioles qui entourait le hangar. Ces chambres, elles puaient tout autant les unes que les autres, mais quand le temps était pourri, je m'en accommodais bien. Pas de bonnes conditions météo, pas de sous. On était tributaire de la pluie et du beau temps, et tout le monde était très déçu quand le vent soufflait trop fort ou que les nuages se mettaient à pleurer. Les gens qui fréquentaient le centre de parachutisme étaient plus vieux que moi pour la plupart. Médecins, chômeurs, étudiants, artistes, militaires, tous réunis autour d'une même passion, voler. Même les motivations divergeaient. Certains recherchaient le sport extrême pour aller au-delà de leurs limites. Parmi eux, plusieurs militaires dont le statut permettait des sauts à prix réduit. L'armée fournissait du kérosène au paraclub en échange de grosses remises pour les soldats. Certains cherchaient des sensations fortes. Certains voulaient risquer leur vie. Je me souviens d'une fille qui m'avait dit un jour « Je veux mourir. Pourquoi ne pas essayer le parachute ? Je n'ai rien à perdre. » Elle avait finalement elle aussi été absorbée par le monde des paras et y avait trouvé une raison de vivre. D'autres étaient tombés dedans lorsqu'ils étaient petits. Leur père, leur mère, leur frère, leur sœur étaient parachutistes. Ils s'inscrivaient dans la lignée familiale. Depuis, tout bambin, ils jouaient dans les voiles, ils sautaient de n'importe quel banc, n'importe quel mur, pour s'entraîner pendant que les parents faisaient la fête à côté. Leur cadeau de 16e anniversaire était tout trouvé. Un premier saut qui marquerait leur entrée officielle dans le monde des paras. Rares étaient ceux qui, comme moi, arrivaient dans le centre sans connaître personne. C'était jouissif de rencontrer des gens d'horizons si différents. Parler du parachutisme en dehors du centre était source de tension et de colère pour moi. Une fois les épuisés, mes potes de Brest jugeaient l'activité trop dangereuse et trop chère. Je sortais de mes gonds. C'est beaucoup plus dangereux de rouler en voiture. Il y a 1000 fois plus d'accidents sur les routes que dans le ciel. Je bouillais également quand j'entendais que le parachute était un sport de riches, de bourgeois. Je bossais comme une dingue pour gagner de quoi payer un saut. C'était un choix. Certains aiment mettre de l'argent dans leurs fringues, les chaussures à la mode ou les boîtes de nuit. Moi, c'était pour sauter. Dès que j'avais mis suffisamment d'argent de côté, je prenais la route direction Vannes pour voler et sauter de nouveau. Je covoiturais avec des parachutistes de Brest, moins cher et plus sympa que le train. Le centre fonctionnait comme une association, avec une équipe de bénévoles parmi lesquels les formateurs, qui sautaient gratuitement lorsqu'ils accompagnaient les stagiaires, et quelques salariés comme la secrétaire, le pilote et l'avionneur, le gars qui faisait le clown dans la salle de pliage avec un micro et des petites fiches pour placer les parachutistes dans les avions, une sorte d'animateur. Le bar était tenu par des bénévoles, sauf l'été où un saisonnier prenait le relais pour faire face aux coups de feu de la saison touristique. Sur la 50aine de centres de parachutisme en France, rares étaient ceux qui étaient portés par un esprit et un fonctionnement associatif comme à Mecon. La plupart se contentaient d'être des usines à sauter. Par ici la Monnaie et Kenavo. Au paraclub, en plus de sauter, on apprenait à vivre ensemble. Le soir, après les séances de saut, c'était souvent la fête. Une sacrée équipe s'était constituée, capable de mettre le feu jusqu'à tard dans la nuit. Barbecue, fêtes déguisées et alcool. Des litres et des litres. L'eau de mer était la spécialité de la maison. Gin, limonade, citron et curaçao. Une boisson bleue comme la mer qui remplissait des poubelles profondes et était lampée jusqu'à la dernière goutte. Pas de parents pour nous surveiller. Chacun devait se gérer s'il voulait sauter le lendemain.
Les ailes froissées.
Parachute. Équipement destiné à ralentir la chute d'une personne ou d'une charge dans l'atmosphère est constitué par une voilure, des suspentes et un harnais de fixation.
Une année s'était écoulée depuis mon premier saut. Une dizaine de fois, j'avais savouré le goût humide et frais des nuages. Généralement, 10 sauts en automatique suffisent pour atteindre le niveau supérieur et être autorisé à sauter de plus haut et sans sangle. Mais certains sont toujours en automatique après 20 sauts. Pour ma part, j'y étais presque, mais il fallait encore que je m'entraîne un chouïa. Le 3 avril 2001, on s'était levé tôt, car le temps était beau et la brise légère. Une grande journée m'attendait, j'avais 2 sauts à mon programme, un automatique le matin, et si ma sortie était bonne, un saut de 2200 mètres l'après-midi, le niveau supérieur. Pour l'occasion, j'avais revêtu mes fringues fétiches, mon pantalon mauve et mon vieux sweat violet et gris. J'avais choisi un parachute bien lourd, 1/4 de mon poids qu'il faisait. Mais je l'avais échangé peu de temps après car il était vraiment trop grand pour moi. Un dernier caca de la peur avant de grimper dans l'avion et zou ! Sur la piste, les ailes élancées et le dos noir et blanc marqué d'une hermine, le Pilatus m'attendait. L'odeur du kérosène, le cri du moteur, le train d'enfer, les battements de mon cœur, le vent déchaîné s'engouffrait par la porte ouverte. C'était Job le largueur, et j'étais la première à sauter. Assise sur le seuil, une fesse dedans, une fesse dehors, mes jambes se battant contre la force prodigieuse du vent, j'attendais le signal du largueur. La banane, la banane. Job me regarda, inclina la tête. Ses lèvres hurlèrent
« Ok !»
Ah ! Et moi, lancée dans le ciel, heureuse de voler, heureuse et fière, car j'avais bien réussi ma banane et bien saisi ma poignée témoin sans hésitation. Ma sangle s'était tendue, le sac s'était ouvert et la voile était sortie. Pourtant, je ralentissais à peine. Je continuais à chuter comme un gros caillou sans vie. Vite, beaucoup trop vite. Que se passait-il ? Un coup d'œil furtif au-dessus de ma tête, le temps de constater le mauvais état de ma voile. 6 des 9 poches étaient désespérément vides et les 3 autres vaguement ronflées. L'altimètre marquait 700 mètres déjà. Explosion d'adrénaline. Les films visionnés au cours de la formation m'étaient revenus en mémoire. Je donnais des coups de ciseaux féroces dans le vide avec mes jambes, dans l'espoir de démêler les nœuds dans les suspentes et de voir les 6 poches vides se gonfler d'un coup. En vain. La chute continuait. Le sol se rapprochait dangereusement et l'issue fatale aussi. Mon sentiment d'invincibilité n'était plus qu'un lointain souvenir. 500 mètres. Poignée de mousse, poignée de fer. Si tu te trompes, tu vas en enfer. Que faire ? Risquer l'enfer direct ? Ou tenter la mort en espérant atteindre le paradis ? Tétanisée, je ne bougeais pas d'un poil. C'était mon premier saut sans radio. Personne pour me guider ni m'aider. On m'en avait bien proposé une ce matin, mais j'avais refusé avec orgueil. Non, c'est bon, j'en ai plus besoin. Solitude infernale. En bas, les copains observaient ma chute à travers leurs jumelles, impuissants et livides. 300 mètres. Comment ça va finir ? Ce sera noir, blanc, noir et blanc, comme quand on n'a pas Canal+. Est-ce que je volerai longtemps ? Toute la vie, peut-être. Ou toute la mort. Il y aura un trou dans le sol, comme dans les dessins animés de Tex Avery. Je pensais à ma sœur, aux collègues, et à ma mère, qui allait sûrement m'engueuler. 100 mètres. C'était le grand saut, le dernier. Je sentais le goût amer de la vie et l'acidité de la mort. Ça puait, ça piquait. J'avais peur. Je ne me posais plus de questions. La réponse serait nécessairement dure à entendre.
Ce n'était ni noir ni blanc. Je suis étendue sur le sol, en totale adhérence avec la terre. Secouée, mais consciente de tout. Une douleur fulgurante déchire mon corps. Je tente de bouger les jambes, mais rien, aucune réaction. Des gens courent vers moi en criant « Dorothée !» C'est le nom de la fille qui était censée sauter en premier. Je m'indigne en pensée. Moi, c'est Patricia.
Ça va, tu nous entends ? Bouge pas, les secours vont arriver.
Je les entends, mais je suis incapable de leur répondre. Vivante. Suis-je vivante ? Ou est-ce mon esprit seulement qui les entend ? Ils enlèvent mes bijoux, mes bagues, mes bracelets, ouvrent ma veste. La sirène des pompiers retentit peu après. On me met dans une coquille, une sorte de cercueil gonflable. Mais alors, je suis morte ou quoi ?
Thank you.
et approuvé. Bibliothèque sonore. Voilà, c'est lu et approuvé qui se termine. On se retrouve chaque mercredi soir à 23h30 aux environs sur le 92.2, sur Canal Sud donc à Toulouse, et puis évidemment sur le www.canalsud.net également, partout en France et même ailleurs. Et ce soir, nous vous avons lu, enfin nous vous avons diffusé un livre audio que nous vous avions lu. Le livre s'appelle « Les ailes froissées », il est paru il y a 2 ans aux éditions Ouest France, et puis il est paru en version audio assez récemment, que vous pouvez retrouver en intégralité, en diffusion audio donc, sur les ailes froissées au pluriel donc .wordpress.com. Vous pourrez l'écouter chapitre par chapitre, musique par musique, puisque la musique a été réalisée aussi pour l'occasion. Donc pour nous réécouter, eh bien c'est simple, vous allez sur le www.canalsud.net, il y a une rubrique « Lu et approuvé » et vous trouverez toutes nos émissions depuis le tout début, il y a plus d'un an maintenant. Sinon, eh bien vous pouvez vous pouvez nous contacter si vous avez des lectures à nous soumettre à luetapprouvé@guyade.org, guyade, G-W-I-A-D.org. On a également un blog sur lequel on publie parfois un peu plus d'informations, et le blog c'est luetapprouvé.noblogs.org. Voilà, j'en ai fini avec tous ces détails. À la semaine prochaine donc pour la suite des Ailes froissées, et donc nous avons lu les 6 premiers chapitres ce soir. La deuxième partie ce sera la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Canal Sud, et à bientôt.
Si nous ne l'ouvrons pas. Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles, mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world.